Cours de philosophie éthique de Père Marie-Dominique Philippe, le 4 novembre 1999 à Saint-Jeudin.
Comment l'amour d'amitié, qui est le sommet de la vie morale, peut-il être en même temps le fondement de l'éthique? L'alpha et l'oméga, vous voyez, c'est pas sous le même aspect. Mais c'est la même réalité. L'amour d'amitié étant un sommet, peut-être au point de départ de toutes ces choses. On va voir ça. Ainsi, il me semble qu'un fondement doit être ce qu'il y a de plus élémentaire, l'alpha. Cette question doit venir de ce que je n'ai pas bien compris, ce qu'est un fondement. Pouvez-vous donc le définir en le distinguant de ce qui est principe? Très bien. Bonne question. C'est très curieux. Le Saint-Père, nous ayant demandé de mieux préciser la différence entre un regard métaphysique de philosophie réaliste et le point de vue phénoménologique de Heidegger, de Hegel et de principe fondamental, du moins le point le plus précis de la phénoménologie. Cette année-ci, je prends le point de départ de la métaphysique par le sommet de la morale. Ce qui est du reste, je crois, le cheminement d'Aristote, ce qui est très étonnant. Et si vous prenez au sérieux ce qu'Aristote nous fait comprendre, que la philosophie humaine est vraiment ce qui est premier, et que cette philosophie humaine s'achève en tant que philosophie humaine par l'amitié, ce que vous soulignez ici, vous avez raison, elle s'achève, mais elle n'est pas une fin. L'intelligence humaine ne peut pas s'arrêter à l'amour d'amitié. L'ami n'est pas la fin absolue de l'homme. Et vous comprenez pourquoi? Il peut mourir. Alors, dans son exercice même d'amitié, il est contingent. Et c'est ce qui fait la limite de l'amour d'amitié. C'est dans l'exercice. Alors, il y a deux manières de le dépasser. La manière métaphysique, la manière phénoménologique, qui n'est pas un vrai dépassement. Et c'est ça qui est important à voir. Husserl commence sa philosophie par l'upoké, la mise entre parenthèses de l'être. Regardez l'amour d'amitié et mettez entre parenthèses l'être. Qu'est-ce que ça fait? Je mets entre parenthèses l'ami en tant qu'il existe. Je dis l'ami, c'est celui que je crée par mon amour. Et c'est vrai, je crée mon ami en l'aimant et en recevant son amour. Si je mets entre parenthèses son être, je le crée. Vous voyez la subtilité extraordinaire. Le refus de l'être, parce que c'est le refus de l'être, c'est pour ça que vraiment celui qui est husserlien, Husserl, ceci et ceci est, c'est la même chose. si je dis que ceci et ceci est, et c'est la même chose, je mets entre parenthèses l'être. Et je mets entre parenthèses, dans l'ordre de l'amitié, l'être de l'ami. Et par le fait même, qu'est-ce qui reste? L'amour d'amitié en soi. Et donc, je suis créateur de l'ami. Puisque c'est grâce à mon choix amical que l'ami existe, comme ami. Vous voyez le caractère très subtil de la phénoménologie husserlienne, qui est vraiment le fondement. Husserl est un matheux. Je vous l'ai déjà dit. Husserl a fait sa thèse en mathématiques. Et des mathématiques, il a glissé sur le précipice, phénoménologue, le glacier. C'est tellement beau. Si je mets entre parenthèses l'être, je suis créateur de l'ami. Il n'y a rien de plus beau que d'être créateur de l'ami. Le seul inconvénient, c'est que l'ami peut mourir, bien que je sois son créateur. Donc je ne suis pas son créateur. Si j'étais le créateur de l'ami, il ne mourrait jamais. C'est bien évident. Si je suis créateur de l'ami, c'est affolant alors. C'est à cause de toi que je meurs. Ce qui arrive de temps en temps. La réalité montre que c'est faux. Je ne suis pas créateur de l'ami. Et le jour où l'ami croit que je suis créateur de l'ami, il me met celui qui est incapable de le ressusciter, incapable de le préserver de la mort. Donc, je suis un menteur. Et pousser jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au bout. Autrement, on ne comprend pas. Et l'upoké. Je ne connais pas très bien Husserl. Je le connais un peu, mais je ne connais pas très bien. Mais j'ai été obligé, à Fribourg, d'être patron de thèse d'un dominicain australien qui faisait sa thèse sur l'upoké du CERN. Il est venu me trouver, en disant, j'ai demandé à d'autres professeurs, non, c'est pas ça, ils ne comprennent pas le CERN. Je vais vous demander si vous pouvez être patron de thèse de ma thèse. J'ai dit, oui, patron de thèse sur le CERN, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je veux bien vous aider. Lui connaissait le CERN, mais parfaitement, sur le bout des doigts. Alors c'était très intéressant d'essayer de comprendre la position husserlienne comme un métamathématicien. Parce que je suis persuadé, Husserl, c'est un métamathématicien. Ce n'est pas un métaphysique, c'est métamathématicien. Métaphysique, c'est le dépassement du devenir pour découvrir l'être. Métamathématicien, c'est quoi? C'est de considérer que la relation est être. C'est-à-dire que la relation remplace l'être. Vous pouvez penser la relation pour elle-même, parce qu'il y a une relation de raison. S'il y a une relation de raison, il y a donc une phénoménologie. Très intéressant, c'est qu'au fond, il y a deux métaphysiques possibles. La métaphysique de l'être et la métaphysique de la relation. La métaphysique de la relation, c'est la phénoménologie. Et pour avoir la relation à l'état pur, il faut la relation de raison. La relation de raison, c'est vous qui la faites. Je crée l'ami. Vous voyez, il y a là quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous. Parce que c'est important, ça. Et nous essaierons de le comprendre en essayant d'entrer le plus profondément dans la métaphysique. Et je crois qu'à ce moment-là, vous voyez, la phénoménologie doit être le dépassement de la relation pour découvrir l'être. Alors, revenons à cette question. L'amour d'amitié peut se comprendre comme une relation. La relation la plus belle, la plus pure, la plus magnifique, c'est l'amitié. L'amitié est une relation. Toute relation a un fondement. Quel est le fondement de l'amitié? C'est la communication de l'amour. Je choisis l'ami. Et en choisissant l'autre comme ami, je me donne à lui. Alors, ce don peut prendre des modalités différentes. Mais il y a un don amical. Je suis don pour mon ami. Et je le rencontre dans son don. Et c'est la rencontre mutuelle du don qui fait l'amour d'amitié. Et je peux séparer ce don du don réel. Je me donne intentionnellement. Je me donne à l'autre en lui disant tout ce que je découvre par mon intelligence, tout ce que je découvre par mon amour d'amitié, mais je me réserve, je ne me donne pas réellement. Je sépare la réalité de l'intentionnalité et je fais de l'intentionnalité l'être. Vous voyez, c'est très subtil, mais c'est ce qui se passe dans la phénoménologie. Et Husserl, à ce point de vue-là, est merveilleux. Oui. Et je comprends très bien que le Saint-Père a été très émerveillé par Edith Stein, qui était le bras droit de Husserl. Disciple et bras droit. Parce qu'un bras, ça pousse de l'être. Et donc, elle était celle qui avait été formée par Husserl, qui était devenue son bras droit, et qui, à un moment donné, à cause de sa foi, et en réalité par sa foi, s'est séparée de lui. Et a redécouvert le réalisme de saint Thomas. Ah, je comprends que pour le Saint-Père, Edith Stein est comme un modèle pour l'humanité qui se précipite dans cette méta-mathématique et qui découvre cette méta-mathématique comme le sommet. Pour Husserl, l'un est au-dessus de l'être. C'est la relation pure. Alors, revenons à la question posée ici. L'amour d'amitié peut être à la fois le point de départ de l'éthique, le point de départ de l'éthique au plan philosophique, c'est-à-dire la réflexion sur l'éthique. Si je suis intelligent, je pars de l'acte moral le plus parfait. Ça va plus vite que de regarder mon acte moral quand il est très embryonnaire. J'aime Dieu, mais je veux sauver ma vie. Or Jésus dit, celui qui veut me sauver, celui qui veut être mon disciple, perd son âme. Accepte la croix. La morale chrétienne est un sommet de la morale. C'est un dépassement de la morale. Quand Jésus dit « Celui qui veut devenir mon disciple », Jésus ne nous enferme pas dans la morale. Il veut qu'il y ait un dépassement de la morale qui suive Jésus. Ce dépassement suivre Jésus se fait dans la foi. Et la foi implique pour nous la mort du Christ. Donc un dépassement de soi. La morale chrétienne implique un dépassement de la morale. Celui qui s'enferme dans la morale pour considérer que sa morale est tout, il aboutit à une position stoïcienne et n'accepte pas le dépassement de la morale qui se fait dans une position de vertu théologale. Nous ne vivons pas d'un idéal, nous vivons d'une personne en tant que chrétien, c'est le Christ. Ce n'est pas l'enseignement du Christ qui fait ma vie, c'est le Christ. C'est le Christ lui-même. Et je ne mets pas derrière ce Jésus. Et je ne vis pas d'un idéal. Le chrétien qui vit d'un idéal se trompe. Il n'est pas réaliste. Il devient stoïcien. Le stoïcisme est la morale la plus proche du christianisme, c'est vrai. Les pères de l'Église ont très bien senti. Tandis qu'au contraire, l'aristotélisme accepte ce dépassement de la morale par l'amitié et par la foi. Il y a deux dépassements. Et qu'est-ce qui me dispose le mieux à la foi? C'est l'amitié. Je rencontre un ami qui est Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est ça la morale chrétienne, qui est le dépassement de la morale. Et qui est tout dans cette foi, dans cette confiance dans le Christ. Je ne m'aimais pas derrière lui. Je suis disciple. Je suis un disciple qui va jusqu'au bout. Alors, vous comprenez à ce moment-là que l'amour d'amitié me met en présence de la responsabilité la plus grande que l'homme peut avoir par l'amitié. Je suis responsable de la destinée de quelqu'un par l'amour d'amitié. C'est la plus grande des responsabilités. Quand quelqu'un est mon ami, je suis responsable de l'orientation de sa vie. C'est la plus grande des responsabilités. Et donc, c'est bien l'amour d'amitié qui m'éveille à la morale. Puisque c'est là où la morale est la plus parfaite. La morale est essentiellement humaine. Donc, c'est au moment où elle atteint son sommet, où, d'une certaine manière, elle se dépasse, qu'elle me fait comprendre le mieux le commencement de la morale. Et donc, l'objection de dire comment l'amour d'amitié, qui est le sommet de la vie morale, peut-il être en même temps le fondement de l'éthique ? Le fondement de l'éthique. L'éthique, c'est la philosophie morale. Donc c'est moi qui réfléchis sur la morale. C'est ça l'éthique. Hein. La philosophie éthique, c'est la philosophie, c'est-à-dire moi qui réfléchis sur cette expérience qui est si importante dans ma vie, l'expérience éthique. Je suis un être qui est responsable des autres et qui est responsable de ma propre destinée. Si je n'étais pas responsable de ma vie, et si je n'étais pas responsable de la vie des autres, il n'y aurait pas d'éthique. L'éthique naît là. L'éthique se justifie dans son sommet. Ah, vous voyez, l'éthique se justifie dans son sommet. Parce que c'est le sommet de la morale qui met en pleine lumière la nécessité d'une éthique. S'il n'y avait pas l'amour d'amitié, je ne connaîtrai pas ma finalité. Ma finalité première se manifeste dans l'amour d'amitié. Dans l'amour d'amitié, je comprends ce qu'est ma finalité. Je suis responsable de l'orientation de ma vie. Et je suis responsable en même temps de l'orientation de la vie de mon ami. Et c'est en comprenant cette responsabilité, en essayant de la saisir, que je peux faire une philosophie morale. Parce que je saisis ce qu'est ma finalité. Tant que je n'ai pas saisi ma finalité, je ne peux pas faire une éthique. Comme une partie de la philosophie. Comme une partie de la philosophie qui me dévoile, qui me révèle, qui me manifeste la causalité finale. Qui me révèle ce principe de finalité. C'est vraiment par l'amour d'amitié que je suis en présence de ma finalité. Pas autrement. Et tant que vous êtes uniquement quelqu'un qui est vertueux, parce que je suis un modèle, je suis un modèle. Je cherche à être le plus parfait possible de ce modèle. Est-ce que ça, c'est éthique ? Non. L'éthique n'est elle-même qu'en dépassant la cause exemplaire. Tant que je reste en présence d'une cause exemplaire, je ne sais pas ce qu'est vraiment ma responsabilité. En suivant un modèle, je donne à mon modèle ma responsabilité. Et c'est pour ça que je reste comme un enfant qui se regarde dans la glace. Ma glace, c'est la cause exemplaire que je porte toujours en moi, cette glace. La cause exemplaire. Et la cause exemplaire peut être rivale de la cause finale. Quand je suis en face d'un modèle, je ne me conduis pas moi-même. J'imite. Je suis dans l'ordre de l'imitation. Et tant qu'on est dans l'ordre de l'imitation, on n'est pas un être moral. On est un petit enfant qui trouve tellement admirable la cause exemplaire que je reste dans ma cause exemplaire. Pour comprendre ma responsabilité, il faut découvrir la cause finale. Oui, c'est pour ça que je dis que c'est très beau cette objection. Elle est très intéressante. Parce que l'amour d'amitié peut être à la fois le sommet de ma morale et le fondement. Parce que, toujours, la philosophie morale n'existe que quand j'ai découvert ma finalité. Par l'amour d'amitié, je découvre ma vraie finalité. Et en découvrant ma vraie finalité, je découvre le fondement de ma morale. Il n'y a pas d'autre fondement de la morale que l'amour d'amitié. Et l'amour d'amitié est fondement de ma morale au moment où elle me fait découvrir cette causalité finale. Et ça, c'est tout à fait le propre de la philosophie éthique. Le propre de la philosophie éthique, c'est de découvrir le dépassement de l'immanence. Le dépassement de l'immanence, de mon activité immanente, c'est de découvrir la finalité. Seule la finalité me permet de découvrir ce dépassement. La cause exemplaire demeure dans l'immanence du point de vue moral. Et la cause exemplaire, à ce moment-là, ne me fait pas découvrir la cause finale. Au contraire, elle m'arrête. Vous voyez, c'est la complexité du point de vue moral, ça. C'est que je saisis, dans la même réalité, fondement et finalité. Alors, je peux m'enfoncer dans le point de vue du fondement, qui devient cause exemplaire. Et c'est beaucoup plus facile, hein. C'est beaucoup plus facile d'imiter quelqu'un que de découvrir ma finalité. Parce que quand je découvre ma finalité, je me découvre seul en face de ma finalité. Et c'est ça qui me fait peur. C'est comme le petit chat. Tant qu'il a vu le petit chat qui s'est dédoublé grâce à la glace. Il s'est dédoublé. Alors, il s'est dédoublé, c'est magnifique de se dédoubler. Dans la causalité exemplaire, vous vous dédoublez. C'est magnifique. Vous vous retrouvez dans le modèle. C'est merveilleux, ce modèle. Il me permet de me découvrir. Mais c'est pas ça du tout. Vous avez projeté ce que vous êtes dans le modèle. C'est pas étonnant que vous vous retrouvez. Le petit chat, il s'est projeté dans sa cause exemplaire. Et il a trouvé la joie de se retrouver dans l'exemple. Complètement exemple. La glace vous dédouble. La causalité exemplaire vous dédouble. La phénoménologie vous dédouble. Alors vous êtes heureux. Cette philosophie, elle n'est pas gênante. Je me retrouve tout le temps. C'est tout le temps. Et je me nourris moi-même. J'apporte à ma doublure sa nourriture. C'est-à-dire que la doublure, de temps en temps, devient vraiment la réalité la plus profonde pour moi. Mais en réalité, pas du tout. C'est votre doublure. C'est pas la réalité. Vous vous trouvez comme cause exemplaire. C'est extraordinaire, ça. Hein? Alors ça, c'est très intéressant de voir ça. C'est pour ça que cette question est très importante. C'est que si je ne saisis pas l'ami dans son existence, je ne saisis pas la cause finale. Je saisis uniquement ma doublure. Par la similitude. C'est pour ça que l'analogie de similitude n'est pas la véritable analogie. La véritable analogie, c'est saisir l'autre en tant qu'autre, dans son existence, autre que la mienne. Et donc je saisis l'autre qui me dépayse. La causalité finale me dépayse toujours. Tandis qu'au contraire, la cause exemplaire, je me retrouve. C'est merveilleux. Je suis très intelligent, je suis merveilleux, puisque je me retrouve dans la causalité exemplaire. Et la causalité exemplaire joue le rôle d'un idéal. C'est moi. C'est moi qui crée mon idéal. C'est ça l'idéal. L'idéal, il vient de vous. Comme la valeur. La valeur, elle est du côté de l'idéal. Je cherche un idéal et c'est pour ça que j'ai une philosophie des valeurs. Parce que les valeurs, c'est moi qui les crée. Elles n'existent pas. Elles n'existent que dans ma réflexion sur la cause exemplaire. Alors, vous voyez comment l'amitié, l'amour d'amitié, peut être à la fois ce qui me finalise et ce qui est pour moi, ce qui me révèle ma responsabilité profonde et qui me révèle dans mon acte ce qu'est l'acte moral. L'acte dont je suis responsable. C'est ça la morale. Dès que vous n'êtes plus responsable de votre acte, vous n'êtes plus un être moral. Et celui qui se saoule, il y a diverses façons de se saouler. Hein. Il y a une façon de se saouler sans boire de vin, uniquement en se gargarisant, de se retrouver soi-même dans la cause exemplaire. Et puis il y a une façon de se saouler physiquement, de perdre la responsabilité de ses actes. C'est merveilleux. Alors je vis à ce moment-là dans un autre monde. Et le toxicomane. Je décolle. Je vis dans un autre monde. Et cet autre monde me permet de vivre pleinement moi-même, puis dans un idéal qui n'est qu'un idéal et qui n'est pas ma fin. Alors, continuons de voir comment La causalité finale, je l'atteins dans l'amour d'amitié. Alors, si vraiment l'amour d'amitié est le fondement de la philosophie éthique, il faut pour cela que dans l'amour d'amitié, je trouve d'une manière parfaite tous les éléments de la philosophie éthique. Autrement, l'amour d'amitié n'est pas fondement. Qu'est-ce que c'est qu'un fondement? Ah, c'est ça, la question posée. Qu'est-ce que c'est qu'un fondement? Le fondement d'une maison. Qu'est-ce que c'est que le fondement? Quand vous construisez sur le lit ancien de la Seine, je reprends l'exemple d'hier, vous devez creuser beaucoup pour retrouver le roc. Le fondement, c'est le roc. C'est ce qui donnera la stabilité à tout édifice qui est construit sur ce fondement. C'est ça le fondement. Le fondement n'est pas un principe. Pourquoi? Parce que le fondement est une réalité. Ce n'est pas un principe. Un principe, c'est ce par quoi une réalité existe comme fondement. C'est ça le principe. Ce par quoi. Donc c'est l'intelligence qui découvre le principe, tandis que l'expérience découvre le fondement. Alors ça c'est très important. Vous pouvez découvrir le fondement de votre mauvaise conduite, de votre débilité, de votre angoisse. Vous pouvez découvrir le fondement. Mais en découvrant le fondement, vous ne découvrez pas la cause. Alors ça, c'est très très important. Vous voyez, quand Jésus dit, je prends exprès cet exemple parce qu'il est typique. Quand Jésus dit, si je ne pars pas, je ne pourrai pas vous envoyer le paraclet. Donc, le fondement pour moi, que le Christ peut m'envoyer le paraclet, c'est son départ et son départ sur la croix. Puisque le départ du Christ, c'est ça. Quand Jésus dit ça, il met en relation deux faits. Le fait d'envoyer le paraclet et le fait de partir. Or, la relation entre deux faits existentiels, ce n'est pas la découverte de la cause. C'est la découverte d'un fait qui est le roc sur lequel je peux établir tout le reste. C'est très important de distinguer la véritable induction et l'induction archéologique. Oui. La véritable induction saisit un principe, une finalité, un principe matériel. Alors je pourrais dire, d'une certaine manière, le fondement, c'est la causalité matérielle. Ah, attention, non. C'est l'élément de la causalité matérielle. L'élément qui existe. Le fondement est une réalité. Le principe n'est pas une réalité. Il est ce par quoi cette réalité peut être principe. C'est pas la même chose. Le principe est le fruit d'une analyse et il saisit par une induction réelle. Le fondement, c'est le roc que je saisis qui me permet d'édifier la maison. Mais ce n'est pas la cause. C'est une réalité existentielle, le fondement. Alors, je découvre le fondement comme la réalité fondamentale qui est nécessaire à l'édification de ce mouvement, de cette réalité. Mais ce n'est pas un principe. C'est très très important de faire la distinction entre le fondement et le principe. Alors je dirais, l'amour d'amitié me révèle la cause finale, l'amour d'amitié est fondement de l'éthique. Fondement entend quel est le premier amour. Dans l'amour d'amitié, il y a un amour premier qui existe. Et en tant que l'amour d'amitié implique cet amour premier, l'amour d'amitié est fondement de l'éthique. Et c'est intéressant, hein, de comprendre la différence entre le fondement et le point de vue du principe. Le positiviste n'accepte pas le principe et la cause, mais il accepte le fondement. Découvrir le fondement, le positiviste accepte, parce que c'est un fait existentiel que je peux mesurer. Mais ce n'est pas le principe. Il est à la source d'un principe, mais il ne me donne pas ce principe à l'état de principe. Il me donne une réalité qui a joué ce rôle très particulier d'être un peu la pierre angulaire sur laquelle tout s'est construit. La pierre angulaire chez le maçon n'est pas un principe, c'est une réalité. Il met cette pierre sur lequel tout va reposer. C'est une chose existentielle. Le fondement est quelque chose d'existentiel. Il n'est pas un principe, une cause.